Bonsoir, chers amis à Lyon. C'est un grand plaisir pour moi d'être chez vous ce soir. Nous avons devant nous un sujet très beau, un sujet très important, un sujet très sérieux, le sujet du mariage et de la famille chrétienne. Avant que nous commençons, j'aimerais faire deux petites remarques. Tout d'abord, je dois vous confesser que j'ai un peu peur de méditer ce sujet. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas l'habitude de présenter la parole de Dieu en français. Et vous pouvez prier pour moi que le Seigneur me donne non pas seulement les pensées convenables, mais aussi les mots en français. Et si je fais des fautes, j'aimerais vous demander d'user d'indulgence envers moi. Il y a une deuxième chose que j'aimerais remarquer. Je ne suis pas venu de l'Allemagne en France pour vous dire il faut le faire ainsi ou ainsi parce que moi je l'ai fait comme ça. Pas du tout. Je dois vous confesser que j'ai fait beaucoup de fautes dans ma vie en mariage avec ma femme et aussi comme père de mes enfants. Dieu, dans sa grâce, nous a donné 5 enfants et 9 petits-enfants. Mais si je considère mon mariage, ma vie de famille, je dois vous confesser, j'ai fait beaucoup de fautes. Et pour cette raison, je n'aimerais parler pas de mes expériences, mais ce que nous aimerions faire, c'est de voir ce que la parole de Dieu nous dit à ces sujets très importants, ces sujets du mariage et de la famille. C'est la parole de Dieu, le mode d'emploi, si on peut s'exprimer ainsi, pour notre vie personnelle, pour la vie d'assemblée, mais aussi pour nos mariages et pour nos familles. Nous commençons par la lecture de 3 versets. Un premier passage dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, au verset 16. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés, tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Un deuxième passage dans le livre de la Genèse, chapitre 2, Genèse, chapitre 2, au verset 18. Et l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. » Et 1 Corinthiens, au chapitre 7, le verset 38, « Ainsi est celui qui se marie fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux. » D'abord, ces 3 passages. Le sujet que nous avons devant nous ce soir, c'est le sujet du mariage, la vie conjugale. Le mariage peut être le ciel au-dessus de la terre. Mais le mariage peut aussi être un enfer pour nous. Dieu veut que nous soyons heureux, aussi heureux dans nos relations conjugales. Dieu est le Créateur et Dieu est celui qui nous a donné le mariage comme une bénédiction particulière. Le mariage, c'est un premier point très important, est un don de Dieu. Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Cela veut dire de la source de la lumière. Dieu est l'origine du mariage. Et il nous a donné le mariage pour que nous soyons heureux. Mais à chaque bénédiction que Dieu nous a donnée, il y a toujours lié une responsabilité. Dieu veut que nous soyons heureux, mais c'est à notre responsabilité de suivre les bonnes pensées que Dieu nous a données. Nous pouvons user cette bénédiction de Dieu proprement pour notre bonheur. Nous pouvons aussi user cette bénédiction abusive. Et par conséquence, nous ne serons pas heureux. Si Dieu nous donne une bénédiction, quelle est notre réaction? Si quelqu'un me fait un cadeau, que dois-je faire? La première chose, c'est de dire merci, n'est-ce pas? Je suis reconnaissant. Je dis merci si quelqu'un me donne quelque chose pour me faire heureux. Si Dieu nous donne ce mariage pour notre bien, quelle est notre réaction? Est-ce que nous sommes reconnaissants pour ce don extraordinaire, le don du mariage? Ceux qui sont mariés, est-ce que nous exprimons notre reconnaissance envers Dieu dans nos prières? Chers frères qui vous êtes mariés, est-ce que nous avons dit à Dieu merci pour la femme que tu m'as donnée? Les sœurs qui sont mariées, est-ce que vous priez en disant Dieu, je suis reconnaissant, merci pour le mari que tu m'as donné, un don que Dieu nous a fait, et nous devons être reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné. Mais peut-être les uns ou les autres se posent une question maintenant. La question suivante. Est-ce qu'il faut que nous soyons mariés pour être heureux sur la terre? Est-ce qu'il est nécessaire d'être marié pour être heureux? Il y a peut-être ceux parmi nous ce soir qui ne sont pas mariés, pas encore mariés ou non plus mariés. Est-ce qu'il faut être marié pour être heureux? La réponse est non. Il est vrai, nous avons lu dans le livre de la Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais nous avons aussi lu en 1 Corinthiens 7, ce verset, que celui qui se marie fait bien et celui qui ne se marie pas fait mieux. Quant à l'homme naturel, il est mieux de ne pas être seul, de se marier. Mais pour le chrétien, il y a un chemin plus élevé. C'est le chemin de ne pas être marié. Le Seigneur Jésus lui-même a quelque chose à dire à ce sujet. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 19e. Le verset 11, mais il leur dit, le Seigneur Jésus, « Tous ne reçoivent pas cette parole, mais ceux à qui il est donné, car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le ventre de leur mère, Et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes. Et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus parle de ceux qui ne sont pas mariés. Il y a ceux qui ne sont pas mariés parce qu'ils ne peuvent se marier. Peut-être ils sont malades dès le ventre de leur mère. Deuxièmement, il y a ceux qui sont élevés dans les circonstances très pénibles, telles qu'il est impossible pour eux de se marier. Ils ont été faits eunuques, dit le Seigneur Jésus. Ça, c'est une chose très sérieuse. Mais troisièmement, le Seigneur Jésus parle de ceux qui se sont faits eux-mêmes, d'un tel qu'ils ne sont pas mariés. Et le Seigneur Jésus ajoute « pour le royaume des cieux ». Pour mieux servir Dieu, pour mieux être à la disposition de Dieu. Si on est marié, on doit investir beaucoup de temps pour le conjoint, n'est-ce pas? Pour le mari, pour la femme. Ça nous coûte du temps. Temps qui n'est plus là pour le Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul n'était pas marié. Pierre, il était marié et il était heureux. Paul n'était pas marié et il était heureux aussi. Il n'est pas nécessaire d'être marié pour être heureux. Si on n'est pas marié, on peut utiliser le temps pour le royaume de Dieu ou pour le ministère, pour le service, pour le Seigneur Jésus. Mais pourquoi est-ce que ceux qui ne sont pas mariés sont présents ce soir? Je crois que c'est très important que vous êtes quand même là. Ceux qui ne sont pas encore mariés, nos jeunes amis, il est très important que vous vous préparez pour le moment où un jour, probablement, vous serez mariés. Et ceux qui ne sont pas mariés ou pas encore mariés, vous pouvez être une aide pour ceux qui sont mariés. Mais pour cette raison, il faut que vous aussi vous connaissiez les bonnes pensées de Dieu à l'égard du mariage et aussi à l'égard de la famille. Le mariage, un don de Dieu, une bénédiction de Dieu, mais liée à notre responsabilité. Dans l'ancien temps, quand on a pris le train, il y avait 3 classes. Aujourd'hui, il y a 2 classes. Je n'ai jamais pris le TGV, mais je suppose que dans le TGV, il y a 2 classes, première et deuxième. Mais dans l'ancien temps, il y avait 3 classes. Et un jour, un père, un chrétien, disait à son fils, qui était en train de se marier, il disait, « Mon fils, écoute, dans le mariage, tu as 3 possibilités de voyager avec ta femme. Tu peux voyager dans la première classe, tu peux voyager dans la deuxième classe ou tu peux voyager dans la troisième classe. Et le désir que j'ai pour toi, mon fils, c'est que tu voyages toujours dans la première classe. Tu vois, mon fils, dans la troisième classe, c'est épouvantable. Dans la troisième classe, un est contre l'autre. Et c'est la guerre. C'est l'enfer sur la terre. Si le mari et la femme sont un contre l'autre, c'est vraiment dur, n'est-ce pas? C'est la troisième classe. Dans la deuxième classe, on est l'un à côté de l'autre. On laisse l'autre vivre comme il veut vivre et on vit soi-même comme on veut vivre. On vit sous un même toit, mais c'est tout. Chacun fait à son gré. C'est ennuyeux de voyager dans la deuxième classe. Mais mon fils, il y a une première classe. Et c'est le désir pour toi. Dans la première classe, l'un n'est pas contre l'autre, on n'est pas à côté du conjoint, mais l'un est avec l'autre et on est pour l'autre. L'un pour l'autre et l'un avec l'autre. La main dans la main. Ça, c'est la première classe. Et je te souhaite, mon fils, les paroles du Père, que tu voyages toujours dans la première classe. Il est possible de voyager dans la première classe. Dieu est l'origine du mariage. Le fondement d'un mariage dans la première classe, c'est le Seigneur Jésus. Et le mode d'emploi, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Et la Bible est pleine d'instructions pour nos mariages. Ça commence dans le livre de la Genèse et la pensée du mariage est aussi, se trouve aussi dans le livre de l'Apocalypse. À travers la Bible, nous trouvons des instructions divines à ce sujet très important. Dieu nous donne des exemples positifs à suivre. Il nous donne des exemples négatifs comme un avertissement. Dieu nous donne des instructions, des doctrines quant à nos mariages, et nous aimerions étudier un peu ce soir et aussi demain après-midi, Dieu voulant, ce que la Bible nous dit à ce sujet très important. Nous aimerions structurer le sujet un petit peu. Tout d'abord, ce soir, nous allons voir un peu les grands principes du mariage dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, nous aimerions voir la confirmation des grands principes dans le Nouveau Testament. Et troisièmement, nous aimerions étudier un peu le plus grand exemple d'un mariage, c'est Christ et l'Assemblée. Et demain, Dieu voulant, nous aimerions observer quelques couples dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nous allons penser un peu sur le sujet de vivre ensemble et l'un pour l'autre, première classe du voyage. Et nous avons une conclusion ou quelques accords finaux. Nous aimerions maintenant ouvrir le livre de la Genèse pour voir quelques grands principes fondamentaux du mariage dans la création. Et nous aimerions lire dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, au verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Chapitre 2, au verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. verset 24, même chapitre. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Donc, ces versets du livre de la Genèse, nous voyons quelques principes fondamentaux du mariage en général, mais aussi du mariage chrétien. La première chose que nous apprenons, c'est que Dieu est l'origine de l'homme et que Dieu est l'origine des sexes. Il nous a créés mâles et femelles, des hommes et des femmes. La parole de Dieu utilise au moins deux expressions pour nous faire apprendre ce que Dieu a fait avec nous. Il nous a créés et il nous a formés. Deux expressions. Et les deux sont vraies, n'est-ce pas? Dieu nous a créés et il nous a formés. Quelle est donc la différence? Dieu, comme créateur, comme celui qui nous a créés, nous a fait dans sa toute puissance. C'est l'omniscience de Dieu qui se trouve dans le mot « Dieu créa ». C'est seulement Dieu qui peut créer. Rien n'était là, rien, mais Dieu a créé. C'est la puissance de Dieu qui se trouve dans cette expression. Mais Dieu aussi, il nous a formés. Et si nous avons cette expression que Dieu nous a formés, nous voyons la sagesse de Dieu et le discernement de Dieu. Dieu, il est omniscient, il est tout-puissant, mais il est aussi d'une grande sagesse, d'un discernement extraordinaire. Quelle sagesse de Dieu de faire un homme avec ses caractères et de faire une femme avec ses caractères. L'homme a ses caractères spéciaux et la femme aussi. C'est la sagesse de Dieu de nous faire ainsi. Il n'a pas fait nous comme hommes tous ou comme femmes tous, mais il a fait des hommes et des femmes. Quelle sagesse de Dieu. Et les deux sexes que Dieu a formés, a créés, sont différents. Un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme. Même si aujourd'hui, on essaye de nous faire apprendre que c'est égal. Le gender mainstreaming, vous comprenez ce mot, cette expression, veut nous dire « ça ne fait rien ». La femme et l'homme masculin et féminin, c'est exactement la même chose. Les différences sont un résultat de l'éducation. Ce n'est pas vrai. Dieu, dans la sagesse, nous a formés mâles et femelles. L'homme et la femme ont la même valeur. J'aimerais souligner cela. Nous avons la même valeur. Il n'y a pas de différence dans la valeur d'un homme ou d'une femme. La valeur est la même. Mais les caractères sont différents. Nos positions terrestres sont différentes. et les tâches que Dieu nous a données sont différentes. Nous allons voir cela plus tard. La deuxième chose que j'aimerais remarquer, le deuxième principe important, c'est que Dieu veut qu'un homme et une femme soient un dans le mariage. Nous avons lu, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est le mariage, et ils seront une seule chair. Un homme et une femme. Cela veut dire deux adultes, pas deux enfants, pas deux jeunes, mais deux adultes, un homme et une femme. Pour être marié, il faut une certaine maturité, une maturité spirituelle et une maturité naturelle. J'aimerais dire cela à nos jeunes. Vous me posez peut-être la question, à quel âge est-ce qu'on peut se marier? Et je ne vous donne pas un âge. On ne peut pas dire à 20 ans, à 25 ans, à 22 ans, à 18 ans. Ça dépend du caractère. Mais il faut une certaine maturité. La troisième chose que j'aimerais souligner, c'est de nouveau un homme et une femme. Pas un homme et un homme. Pas une femme et une femme. Un homme et une femme. Il y a peut-être une trentaine d'années, cela était pas nécessaire de le dire, mais aujourd'hui, chers amis, il est nécessaire de souligner cela particulièrement pour nos jeunes. L'homosexualité est une chose interdite dans la parole de Dieu. Pas un homme et un homme, pas une femme et une femme, mais Dieu dit dans la création un homme et une femme. C'est le chemin que la parole de Dieu nous montre. Et il n'y a pas d'autre chemin. Quatrièmement, Dieu dit, un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pour être marié, il ne faut pas seulement une certaine maturité, mais il faut qu'on soit autonome et indépendant. Indépendant de ses parents. Il faut quitter la maison paternelle pour bâtir une nouvelle maison avec sa femme. Il faut couper le cordon ombilical, n'est-ce pas? Une nouvelle unité, une certaine indépendance. Matériel et spirituel. Si le jeune homme ne gagne pas assez d'argent pour payer ce qui est nécessaire pour sa femme, pour ses enfants, il ne peut pas se marier. Si la jeune dame n'est pas capable d'éduquer les enfants, elle ne peut pas se marier. Si le jeune homme n'est pas capable de parler une prière à la table avec sa femme, il ne peut pas se marier. Il faut quitter la maison et il faut que les jeunes mariés soient une nouvelle unité. Bien sûr, c'est d'un part, c'est la responsabilité des jeunes de bâtir leur maison, mais c'est aussi la responsabilité des parents de laisser les enfants aller. Ce n'est pas facile. Nous avons 4 enfants qui sont mariés et chaque fois, c'était un procès. Ce n'est pas facile de laisser les enfants aller. On aime bien les attacher à nous-mêmes, souvent, mais il faut les laisser aller. C'est nécessaire. Un homme quittera son père et sa mère. Le 5e point que j'aimerais souligner, et cela est très important, c'est que les deux, l'homme et la femme, les deux qui sont maintenant mariés, forment une nouvelle unité, forment un tout. Le mariage, chers amis, le mariage est une unité de vie, d'amour et de service. Le mariage est une unité de vie, de toute la vie, de l'amour et de service. Unité de vie, une fois marié, on est marié jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Pas de divorce. C'est interdit dans la parole de Dieu. On se mariait jusqu'à la mort. Le mariage est une unité d'amour. L'attachement à la femme, c'est par l'amour. Nous allons voir ce sujet plus tard, ce sujet de l'amour. Et le mariage est aussi une unité de service. C'est un grand privilège de servir le Seigneur Jésus ensemble. Bien sûr, tout d'abord, le service est une responsabilité personnelle, mais c'est vraiment un privilège d'être capable de servir le Seigneur Jésus ensemble avec la femme, avec le mari. Cette unité dans le mariage comprend tout l'homme. L'homme se compose, si on peut s'exprimer ainsi, de 3 parties ou 3 choses. Nous avons un âme, nous avons un esprit et nous avons le corps. 1 Thessaloniciens 5 nous dit « L'esprit, l'âme et le corps, ça c'est l'homme. » Et cette unité dans le mariage comprend tous ces 3 parties. C'est une unité d'esprit. Cela veut dire quoi? Une unité d'esprit veut dire que nous sommes capables d'avoir un échange de pensées, un échange intellectuel et aussi spirituel. Je peux partager des pensées avec ma femme. L'unité de l'âme, cela compose un échange émotionnel, les sentiments. Je peux voir ce que ma femme pense. Je vois les sentiments de la femme et je peux en parler avec elle. Un échange sentimental. Et troisièmement, bien sûr, l'unité est une unité de corps. C'est la sexualité, c'est l'union physique. La sexualité est aussi un don de Dieu. Dieu nous a donné ce don, c'est une bénédiction, mais liée à une grande responsabilité. L'union physique, la sexualité, a deux raisons. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné ce don de la sexualité? Pourquoi? Tout d'abord, pour la multiplication. C'est ce que Dieu dit dans le livre de la Genèse. Que nous nous multiplions pour qu'on ait des enfants. C'est normal que dans un mariage, il y aura aussi des enfants. Il y a des exceptions, mais c'est normal qu'on ait des enfants. La sexualité nous est donnée pour la multiplication, pour que nous ayons des enfants. Mais deuxièmement, la sexualité nous a été donnée pour un plaisir. Lisons dans le livre des Proverbes, la parole de Dieu parle très ouvertement de ce sujet. Proverbes, chapitre 5. Je lis seulement le verset 18 et 19. Que ta source, c'est la femme avec laquelle on est marié, que ta source soit bénie et réjouis-toi dans la femme de ta jeunesse, biche des amours et chevrette pleine de grâce. Que tes seins t'enivrent en tout temps, soient continuellement épris dans son amour. C'est ce que Dieu nous a donné en nous donnant le don de la sexualité. C'est aussi un plaisir pour nous. Mais, Dieu a donné une protection pour l'usage de la sexualité, un terrain exclusif. Et ce terrain exclusif est le mariage. Cela est aussi très important de le dire dans nos temps qui sont si ténébreux. Autour de nous. Autour de nous, on vit la sexualité comme on veut. Mais Dieu dit, l'usage de ce don est limité dans le cadre du mariage. Pas avant et pas à côté, mais seulement dans le mariage, on peut utiliser ce don que Dieu nous a donné, le don de la sexualité. Le mariage est une union, une unité de vie, d'amour et de service, et elle comprend l'esprit, l'âme et le corps. Et cela fait très évident qu'il est impossible, qu'il est absolument impossible qu'un croyant fait une telle unité avec un incroyant. C'est impossible. Dieu ne veut pas qu'un croyant se marie avec un incroyant. Un frère, un jour, a dit, si quelqu'un prend une femme, si un croyant, un frère, prend une femme incrédule, il a le diable comme beau-père. C'est vrai, n'est-ce pas? Si un croyant se lie à un incroyant, il a le diable comme beau-père. J'aimerais dire ça à mes jeunes amis, chers jeunes amis. Ne pensez jamais à marier quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Il faut que le conjoint ait la même vie que nous avons, la vie éternelle. La parole de Dieu est très claire sur ce sujet. Et j'aimerais lire deux passages, un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Le livre du Deutéronome, chapitre 7. Deutéronome 7. Là, dans ce chapitre, il est question des nations autour du peuple d'Israël. Et au verset 3, Dieu dit, « Tu ne t'allieras point par mariage avec elles. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils, et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, car ils détourneraient de moi ton fils, et ils serviraient d'autres dieux. » Et dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens, au chapitre 6e, ce verset est bien connu, 2 Corinthiens 6, au verset 14, « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité. Quel contraste, justice, iniquité. Quelle communion entre la lumière et des ténèbres, impossible. Quel accord de Christ avec Béliar. Quelle part le croyant avec l'incrédule. Quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et des idoles. Il n'y a pas de communion. Impossible, un incrédule avec un crédule, impossible, pas un joug mal assorti. Il ne faut jamais, jamais marier quelqu'un qui n'est pas marié. C'est fondamental, c'est pourquoi j'aimerais souligner cette pensée. Un sixième point, à quel moment est-ce que cette unité commence. Un homme quittera sa mère et son père et s'attachera à ta femme. À quel moment? Avec le mariage. Pas avant. Avec le mariage devant l'état civil dans nos pays européens. Et la fin? La fin, c'est bien sûr la mort. Cette union termine avec la mort. J'aimerais justement lire un verset dans le livre, dans l'épître aux Romains, chapitre 7e, verset 2. Romains 7, verset 2. Car la femme qui est soumise à un mari est lié à son mari par la loi. Par quelle loi? Pas par la loi de l'Ancien Testament, c'est la loi romaine ici, la loi française, la loi allemande. Le mariage, cette union, cette unité commence avec le mariage devant l'état civil. Deux jeunes qui se sont fiancés ne sont pas encore mariés. C'est une différence. Et c'est pourquoi la sexualité commence avec le mariage et pas avant. Nous aimerions maintenant voir la confirmation de ces grands principes de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. D'abord, Matthieu 19. Ce verset que nous avons lu dans le livre de la Genèse, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair, se trouve trois fois dans le Nouveau Testament. Trois fois. Matthieu 19. Verset 4, le Seigneur Jésus dit aux pharisiens, « N'avez-vous pas lu que celui qui les a fait, dès le commencement, les a fait mâle et femelle, c'est ce que nous avons trouvé, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. » Une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. Ce que Dieu a uni, chaque mariage est uni par Dieu comme créateur. Marié dans le Seigneur, c'est une autre chose, mais chaque mariage est une mariage que Dieu a uni. Bien sûr, aussi le mariage chrétien. Dieu nous unit. Et le Seigneur Jésus dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Cela nous montre clairement que c'est contre la volonté de Dieu de se divorcer. Déjà dans l'Ancien Testament, nous lisons que Dieu haït la répudiation. Si nous voyons les taux de divorce aujourd'hui, ils augmentent toujours. Je pense que c'est en France la même chose qu'en Allemagne. Aussi parmi les chrétiens, malheureusement. Mais Dieu dit, la parole de Dieu dit, ou le Seigneur Jésus dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est une impasse. C'est une impossibilité. Dieu ne le veut pas. Il ne faut jamais que cette pensée soit dans nos têtes de se divorcer. Non, ce n'est pas possible. Mais de nouveau, j'aimerais m'adresser à mes jeunes amis. Si la divorce est une impossibilité, ça nous montre combien il faut être prudent dans le choix du conjoint. Ce n'est pas une chose qu'on fait comme ça. Nous faisons beaucoup de décisions importantes dans la vie. Mais la plupart de nos décisions sont versibles. On peut les changer. Si on a acheté une voiture qui ne marche pas, on peut la vendre. Si on a loué un appartement qui ne va pas bien, on loue un autre. Mais la décision pour le conjoint est une décision irréversible. Ce n'est pas possible de répudier sa femme. Alors, faites attention. C'est quelque chose qu'on doit faire avec le Seigneur Jésus en communion avec lui. Deuxième passage dans le Nouveau Testament, c'est 1 Corinthiens 6. En 1 Corinthiens 6, verset 13 au milieu. Or, le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Mais Dieu a ressuscité le Seigneur, et il nous ressuscitera par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée, qu'ainsi n'advienne. Ne savez-vous pas que celui qui les a unis, que celui qui est uni à une prostituée est un seul corps avec elle, car les dieux, dit-il, seront une seule chair. Voilà la citation de l'Ancien Testament. Les deux sont une seule chair. Ce que l'apôtre Paul veut dire dans ce chapitre, dans ce passage, c'est que la fornication est quelque chose qui est aussi une impossibilité pour un chrétien. Celui qui prend une femme sans être marié avec elle, il est un seul corps avec elle. Mais celui qui a des rapports sexuels avec sa femme avec laquelle il est marié, il est une seule chair avec elle. Vous remarquez ces deux expressions, un seul corps et une seule chair. C'est une différence. Un seul corps, c'est seulement une chose, oui, de notre corps, mais pas de l'homme entier. Mais selon les pensées de Dieu, l'union du corps avec la femme mariée est une union de tout l'homme, du corps, de l'âme et de l'esprit. Une seule chair, pas de fornication. Il y a un troisième passage dans l'épître aux Éphésiens, où ce verset est cité, Éphésiens 5, au verset 31, c'est pour que cela, que l'homme laissera son père et sa mère, et il sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. Quel mystère est grand ? Quel mystère est grand ? Nous disons le mystère Christ et l'Assemblée. C'est un mystère qui est grand. Et c'est juste, c'est vrai. C'est un mystère, Christ et l'Assemblée. Mais l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme et ils seront une seule chair. Ce mystère est grand. Le mystère qu'un homme trouve une femme et devient une unité avec elle, c'est aussi un mystère. C'est ce que nous lisons déjà dans le livre des Proverbes, les paroles de Agur. Il dit exactement cela. Qui peut connaître le chemin de l'homme vers une jeune fille? Qui peut le connaître, le chemin? C'était un mystère pour Agur, et c'est toujours un mystère aujourd'hui. Quelqu'un qui est né au nord du France, qui a vécu au nord du France, un jour il trouve une femme dans le sud de la France et Dieu les unit dans l'amour. C'est un mystère, n'est-ce pas? C'est un mystère, mais c'est Dieu qui le fait. Mais l'apôtre ajoute, ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et l'Assemblée. Et maintenant, chers amis, nous voyons une chose vraiment extraordinaire. La relation terrestre et temporaire du mariage symbolise la relation céleste et éternelle de Christ et l'Assemblée. Ça, c'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Une relation terrestre, une relation temporaire symbolise cette relation céleste et éternelle, Christ et l'Assemblée. Ça nous montre combien haute est la valeur du mariage, de cette relation terrestre et temporaire. Chaque relation dans le mariage sur la terre a ce grand but de montrer quelque chose de cette relation entre Christ et l'Assemblée. Quelqu'un a dit que le mariage est le chef-d'œuvre de la première création. Nous venons de lire ces passages dans le livre de la Genèse. Le mariage, le chef-d'œuvre de la première création. Mais Christ et l'Assemblée, c'est, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le chef-d'œuvre de la nouvelle création. Mais les deux sont liés. Cette relation terrestre symbolise cette relation céleste. Quelle hauteur à ce relation du mariage. Ce passage dans Éphésiens 5 nous parle des tâches de l'homme et de la femme, des responsabilités des femmes et de l'homme. L'apôtre Paul s'adresse aux femmes au verset 22, il s'adresse aux maris au verset 25. Et ces versets nous montrent le modèle parfait. Ces versets nous parlent de ce que Christ fait pour son assemblée, et cela est dit à nous qui sont les maris. Comme Christ agit envers son assemblée, nous devons agir envers nos femmes. C'est le modèle parfait. Mais ainsi que l'assemblée agit envers Christ, les femmes devraient agir vers leur mari. Le temps est avancé déjà. Nous reprenons ce sujet, Éphésiens 5, Dieu voulant, demain après-midi, pour voir ce modèle, cet exemple, Christ et l'Assemblée, l'Assemblée et Christ. Et cela est plein d'instructions pour nos mariages, des pensées très pratiques qui nous sont données dans ce passage. Alors Dieu voulant, nous reprenons ce sujet de l'Éphésiens 5 demain après-midi.